Peut-être avez-vous déjà eu des ennemis dans votre vie, je ne sais pas. Hein. Ou au moins quelqu'un qui vous a fait du tort. Et puis peut-être quelqu'un qui vous a fait continuellement du tort, qui vous veut du mal. Mais imaginez, si ça vous est jamais arrivé, imaginez-le. Hein. Imaginez la situation. Et puis ce que vous feriez si un jour, vous avez l'occasion de vous venger, de faire payer à cette personne. Quelle que soit la chose. Parfois, ça peut être une parole qu'on a eue contre quelqu'un méchant ou des attitudes ou des gestes ou je ne sais pas. Eh bien, quelle serait notre réaction? Ou peut-être, quel conseil on donnerait à quelqu'un qui est dans cette situation? D'accord? Est face à quelqu'un qui veut du tort et puis... Ça arrive parfois qu'un jour, cette personne se retrouve dans une occasion où elle peut agir. Et comment elle va agir? Je me rappelle, pendant quand j'étais en vacances, il y avait quelqu'un qui parlait, quand on était aux Antilles, d'un maire d'une commune qui avait fait un certain nombre de choses. Et puis après, il s'est retrouvé à l'hôpital et en train d'être soigné par... des gens qui l'administraient parfois, hein. Et quelqu'un avait dit, maintenant, tu as besoin de moi, hein. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant dans ton état? Tu peux pas t'occuper de toi tout seul, maintenant. Et cette personne utilisait ça comme quelque chose, et avait un pouvoir maintenant sur cet homme, politique qui maintenant était dans un état extrêmement affaibli à l'hôpital. Alors, imaginez, qu'est-ce que doit faire l'enfant de Dieu? Eh bien, cette situation, nous la connaissons dans la Bible, nous la voyons dans la Bible avec David. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui, dans 1 Samuel chapitre 24, on va considérer pendant l'été, quelquefois, le personnage de David avec ses forces et ses faiblesses, lui qui était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, 1 Samuel chapitre 24. Et c'est une histoire très instructive. On pourrait le regarder sous plusieurs perspectives, mais on va le regarder uniquement quelques aspects sous la perspective de David. 1 Samuel 24, il est dit ceci. David monta vers les lieux forts d'En-Gedi où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, alors Saül était en train de poursuivre David, et puis à un moment donné, on lui dit, il y a des Philistins qui attaquent le pays, donc il fait demi-tour, et il retourne s'occuper des Philistins, et puis, une fois qu'il a terminé, il revient maintenant à sa première charge contre David. C'est pour ça qu'il est dit ici, que Saül, revenu de la poursuite des Philistins, on vient lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta les gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Et il se mit à crier après Saül. « Ô roi, mon seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David lui dit, « Pourquoi écoutes-tu les gens qui disent « Voici David, cherche ton malheur ». Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Pourquoi, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre toi et moi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice et me délivrera de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien toi? Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi, je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui ta bonté, la bonté avec laquelle tu agis aujourd'hui envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Et l'Éternel... Que l'Éternel, te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras sur la royauté d'Israël et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Voilà, c'est une histoire particulière, n'est-ce pas? Nous avions considéré David dans un creux avec le frère Marcel la dernière fois, et là nous le voyons dans un autre épisode de sa vie, et où il a la possibilité de se venger. Lui qui est roi, il a été roi déjà par Samuel, mais il n'est pas sur le trône parce que Saül y est. Et Saül le poursuit et cherche à le faire mourir. Lui que Dieu aussi a choisi pour succéder à Saül. Donc c'est une situation assez particulière, n'est-ce pas? Mais on voit que, voilà, dans cette situation, dans cette occasion, on pourrait dire en or, qui se présente devant David, eh bien, il a choisi de faire grâce à Saül. Et donc la méditation, le titre de la méditation ce matin, du message ce matin, c'est manifester la grâce face à l'hostilité. Manifester la grâce vraiment face à l'hostilité. Donc nous allons voir un peu ce que fait Saül ici, et puis David ici, et puis considérer quelques leçons que nous pouvons tirer de cela. Première chose qu'il fait pour manifester cette grâce, c'est qu'il montre du respect. Il montre du respect. Manifester la grâce consiste, envers les autres, en temps particulièrement hostile, consiste à montrer, à maintenir et à montrer du respect. Il dit que David se lève et il crie, par exemple, « Mon Seigneur et roi ». Et quand Saül se tourne vers lui, il s'incline le visage contre terre et il se prosterne. Il est dans une attitude vraiment de respect compte tenu de la position politique, on pourrait dire, de Saül. Mais il est dans ce respect quand il dit aussi « Loin de moi de porter la main sur celui qui est oint par les ténèbres ». Il reconnaît que Saül est le roi choisi par Dieu. Il est oint, c'est le même mot qu'on utilise pour le mot Messie. Hein. Donc il est celui qui a été oint, on a versé de lui, soit être choisi, mis à part par Dieu pour ce ministère. Donc il le dit plusieurs fois au verset 7, au verset 11. Et puis au chapitre 26, d'accord, parce que Saül n'a pas changé, après cet épisode, il va encore se retrouver côte à côte avec David, il va le poursuivre, ils vont se retrouver dans une situation un peu similaire, et où David sera poussé par ses gens à tuer encore Saül, et David va dire « Non, je ne porte pas la main sur lui ». Et donc, David, si on peut dire... manifeste un respect lié à la position déjà politique de Saül. Il le salue, il s'incline devant lui, mais il considère vraiment que c'est Dieu qui l'a placé dans la position où il est et qu'il ne lui appartient pas de lever sa main sur Saül. Quoi qu'ait pu faire Saül. Et Saül était un criminel qui poursuivait David, qui n'avait qu'une, si vous lisez le chapitre 19 jusqu'au verset, jusqu'au chapitre là où nous sommes, 24, vous allez voir qu'il n'a de cesse que de poursuivre David et de le faire mourir. Même quand David était dans sa cour et que David chantait, quand Saül avait un mauvais esprit, il dit à un moment donné que Saül prend sa lance et puis il la lance contre David. Et David a eu le temps de se détourner, la lance s'est plantée dans la paroi, hein, mais il a déjà commis plusieurs tentatives de meurtre sur David. Donc il le poursuit. David a enfin devant lui, au bout, je ne sais pas combien de temps, peut-être au bout de plusieurs années, là ici, l'occasion d'en finir avec cette histoire de fugitif, de roi oint, mais non sur le trône, en train d'attendre, etc. Et poursuivi, qui de plus, poursuivi par Saül. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Je respecte celui que Dieu a choisi. C'est Dieu qui l'a placé là. Et il n'appartient qu'à Dieu, de le retirer de cette position. Et c'est exactement ce qu'il dit, si vous regardez au chapitre 26, où, verset 8, où Abishai, qui est un homme de David, 1 Samuel 26, et là c'est la deuxième, une autre situation après celle-là où David se retrouve encore en position avec une occasion de pouvoir tuer Saül. Et Abishai, verset 8, dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance, le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'aie pas à y revenir. » Proprement. Tac, terminé. Tu vois? Mais David, verset 9, dit à Abishai, « Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel ?» Et David dit, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur le champ de bataille et qu'il périsse. » Verset 11, « Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. » Ok, vous voyez un peu cette attitude, c'est la même attitude, hein, un peu, quelque temps plus tard. Donc ici, il y a un respect de Saül, quoi que Saül ait pu faire. Le respect de l'autorité. C'est ce que nous lisons dans l'Écriture en Romains chapitre 13, je vous lis, et au verset 1 et 2, nous lisons ceci. L'apôtre Paul dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Vous dites, mais le gouvernement avec le dictateur sanguinaire à sa tête, c'est Dieu qui a établi l'autorité. C'est Dieu qui a établi l'autorité. C'est Dieu qui a établi l'autorité. C'est ce que nous dit l'Écriture. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu fait ça. Mais la Bible dit que Dieu élève les uns et il abaisse les autres. il élève celui-ci en dignité et puis il abaisse celui-là. D'accord ? Donc tout ce qui se passe dans notre monde est sous le contrôle de Dieu lui-même. Et c'est l'histoire du monde, n'est pas l'histoire du monde. L'histoire du monde, c'est l'histoire que Dieu est en train d'écrire et de dérouler. C'est l'histoire de la création, de la chute de l'homme, du salut procuré par Jésus-Christ, d'accord, de la rédemption et de la consommation finale de toutes choses. C'est la grande histoire qui est en train de s'écrire. Après, dans celle-là, on a l'histoire, n'est-ce pas, on pourrait dire des sous-histoires, ça bouge, etc. Hein. C'est comme si vous avez des gens qui, vous regardez, vous êtes dans un train, et puis le train, il va de... Allez, puisque j'étais allé voir ma fille, je vais dire de Paris à Avignon, hein. C'est le chemin dans lequel va le train. Mais si vous êtes dans le train, vous regardez les gens qui sont dans le train, eh bien, il y a un petit qui est en train de manger ses frites, et puis il y en a un autre qui court comme ça. Et vous, ça, c'est l'histoire qui se passe dans le train, si vous voulez, quelque part. Mais en fait, la grande histoire, c'est laquelle? C'est le cheminement de toutes ces personnes-là, de Paris jusqu'à Avignon. C'est un peu la même chose, on pourrait dire, pour l'histoire de notre monde. C'est Dieu qui écrit son histoire. Et donc, quand il est dit ici que toute autorité vient de Dieu, Dieu établit les choses, il élève les uns et abaisse les autres, c'est lui qui dirige les choses. Et donc, quand il nous demande de nous soumettre aux autorités, il faut nous soumettre aux autorités, ne pas résister aux autorités. Considérer qu'elles sont ici mises par Dieu. David, dans sa situation, est conscient que c'est Dieu qui a placé Saül et dit « je ne vais pas porter la main sur lui ». Si je porte la main sur lui, je me rebelle contre ce que Dieu a établi, même s'il se comporte mal. Et l'apôtre Paul lui-même, qui a écrit ceci en Romains, il s'est trouvé dans une situation où il y a eu quelqu'un qui a exercé à son égard l'autorité, mais d'une mauvaise manière. Et l'apôtre Paul, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait dit, et puis le souverain sacrificateur envoie quelqu'un pour le gifler le déroulement d'un procès. Et Paul dit à cet homme, tu es établi pour exercer la loi, mais tu violes la loi en demandant qu'on me gifle. Et puis il dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Et quelqu'un lui dit, mais c'est ainsi que tu parles au souverain sacrificateur? Et Paul dit, je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Parce qu'il est écrit, il dit, tu ne parleras pas mal du prince de ton peuple. Et en disant ça, il cite Exode, chapitre 22, verset 28. Il dit, tu ne parleras pas mal des fils du prince de ton peuple. Je ne savais pas. Vous voyez? Donc, cet homme exerçait mal son autorité. Paul le lui fait remarquer, mais il savait pas que c'était le chef qui était en train d'agir comme cela. Il dit, il semble dire qu'il n'aurait pas agi de la sorte s'il avait connaissance que c'était le souverain sacrificateur. Et plus tard, dans Romains, il dit, rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur, sans mettre de conditions là-dessus. Donc, vous voyez ici, David manifeste, si vous voyez, la grâce dans cette situation difficile, parce qu'il respecte, vraiment, il respecte la position politique, on pourrait dire, de Saül. Il respecte aussi sa position, la relation familiale qu'il a avec lui. Il appelle père. Saül, c'est le beau-père de David. David a épousé la fille de Saül, imaginez, il est donc le gendre est poursuivi par son beau-père veut le tuer, et David l'appelle au verset 12, il dit mon père, et il sollicite, un peu comme pour faire vibrer la corde familiale, il sollicite même cette relation pour parler à Saül ici. Hein. Il l'interpelle en faisant intervenir, on pourrait dire, le lien étroit qui les unit ici. Il montre du respect pour Saül, tant dans la relation intime qui les relie que dans la relation, pourrait dire, sociale, hein, qui les relie de roi à son sujet. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on peut voir qu'il manifeste aussi la grâce en rétablissant, en cherchant en tout cas à rétablir la vérité dans la pensée de Saül. Verset 10 à 12, il parle et il plaide pour que la vérité soit établie. Il dit à Saül, je ne te veux pas du tort, je ne t'ai jamais voulu du tort, je ne cherche pas à te destituer de ton trône, je ne cherche pas à te tuer. C'est ainsi qu'il, en substance, c'est ce qu'il dit, et il le fait en
je veux dire ici, en s'appuyant sur, on dit s'appuyant sur des meilleurs, sur les meilleures hypothèses, c'est-à-dire qu'il ne va pas considérer que, voilà, Saül, il agit mal, etc. Il va dire à Saül, ici, regardez au verset 10, il dit, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David, cherche ton malheur? Il semble dire, écoute Saül, tu te trompes, il y a des gens qui te trompent. Un peu comme l'apôtre Paul avait dit aux Galates, il y a des gens qui vous troublent. Il dit, il y a des gens qui te trompent. Il dit pas à Saül, tu te trompes, tu sais pas réfléchir, tu ne sais pas. Non, il ne le blâme pas, ne lui reproche absolument rien. Il lui dit, tu es mal conseillé. Les gens qui te conseillent ne t'ont pas dirigé dans la bonne direction. Ne les écoute pas. Pourquoi les écoutes-tu? Ils te transmettent des pensées fausses à mon sujet. Et après, il dit ceci, il dit, vois maintenant, regarde de tes propres yeux. Il va le pousser, il va lui donner des preuves de sa loyauté envers lui. Il dit, regarde de tes propres yeux, l'Éternel t'avait livré entre mes mains. Il dit que l'Éternel t'a livré entre mes mains. J'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Il dit, on m'excitait même à te tuer. J'étais conseillé par mes gens de te tuer. Et je ne l'ai pas fait, mais je t'ai épargné, dit-il, verset 11. Il dit, j'ai dit à mes hommes, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur. Non seulement c'était sa conviction à lui, mais il l'a transmise aussi à ses hommes. Non, on ne portera pas la main sur... Et ces hommes ont été convaincus, quand on lit au verset 1 Samuel 24, il est dit qu'ils ont été convaincus par les paroles que Samuel a prononcées. Donc 1 Samuel 24, je reviens ici, et verset 8, il est dit, par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Ils ont été convaincus qu'il fallait pas le faire, mais ils étaient prêts à le faire. Et puis il dit ici, vois, verset 12, vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Il avait déchiré, coupé le pan du manteau de Saül. Il dit, regarde, j'ai le pan de ton manteau dans ma main. Si je te voulais du mal, ce ne serait pas seulement le pan du manteau que j'aurais dans la main. J'aurais pu te terrasser, te tuer, te couper la tête. On peut imaginer ce qu'on veut. D'accord? J'aurais pu le faire. Je ne l'ai pas fait. C'est donc que je ne suis pas animé d'un mauvais esprit à ton égard. Je n'ai pas l'intention de te tuer, etc. Et il dit même, il cite même un proverbe pour dire que la méchanceté, il dit, des méchants vient la méchanceté. Et le texte dit que c'est un ancien proverbe. Peut-être un proverbe profane, hein, mais un ancien proverbe. Il dit, voilà, cela montre que, ce proverbe montre que la motivation des hommes en général est révélée par ce qu'ils font. Si j'avais été animé par la pensée de te tuer, je l'aurais fait dans cette occasion-là que j'ai eue, qui était une occasion en or. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, il pourrait dire qu'il cherche à rétablir la vérité dans la pensée des gens. Il sait très bien que Saül ne va pas changer. Hein. Il n'essaie pas de faire changer Saül, pas du tout. Il sait simplement, il use de grâce envers lui, et il lui dit la vérité, pour qu'il sache la vérité, mais il ne s'attend pas même à ce qu'il change, parce que on voit ici, quand à la fin de l'histoire, regardez, il est dit que David jura de ne pas détruire sa postérité. Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. Et ce qu'on dit, le lieu fort, c'est le désert, hein, ici. Donc il est reparti, pas dans sa maison comme s'il était en repos. Souvent, quand la Bible parle, ils retournent dans leur maison, il y a une question de repos. Et là, il repart dans les cachettes, dans le désert, ici, parce qu'il sait très bien que Saül ne changera pas. Et d'ailleurs, chapitre d'après, on voit bien que Saül n'a pas changé, qu'il a encore poursuivi David. Donc, David, n'empêche, manifeste la grâce en cherchant à rétablir la vérité. Parfois, il arrive que dans les relations difficiles que nous avons les uns avec les autres, il manque de vérité. Hein. On se trompe sur les intentions les uns des autres. Et il est bon de se respecter, premièrement comme David l'a fait, de respecter les autorités que ce soit sur le travail, le patron, que ce soit dans le foyer, que ce soit à l'église, que ce soit n'importe où dans la société, de respecter les choses, de se respecter les uns les autres, et puis aussi de chercher à rétablir de la manière la plus délicate, je veux dire, qui soit la vérité. En ne disant pas à l'autre, par exemple, « Ah bon, tu n'y comprends rien. » Non, en disant « Peut-être c'est un malentendu, peut-être je me suis mal exprimé, peut-être on t'a mal expliqué, ou tu as mal compris ce que l'on t'a dit. Laisse-moi rétablir la vérité. » Voilà, etc. Et ce que David est en train de faire ici. Il ne s'attend pas forcément à ce que la personne change, mais il veut que la vérité triomphe dans la situation. Et puis troisièmement, on peut dire que David manifeste la grâce en s'abandonnant complètement à la justice et à la miséricorde de Dieu. Regardez ce qu'il dit verset 13 et verset 16. Il dit, « L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. » Il dit ça plusieurs fois. Je crois qu'il dit ça trois fois au moins. « Je ne porterai point la main sur toi. » Verset 16, « L'Éternel jugera et prononcera entre toi et moi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Et donc, il refuse d'exercer lui-même la propre justice. Il dit, « Je ne me suis pas vengé, je ne vais pas porter la main sur toi parce que je m'abandonne complètement entre les mains de Dieu pour ce qui concerne la justice et la vengeance dans cette situation. On dit toujours, parfois, qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. N'est-ce pas? Donc, on est mieux. Si c'est moi qui ai subi l'outrage, c'est à moi de faire justice. Et des fois, on fait justice en faisant mijoter notre vengeance pendant longtemps. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, dit-on. Et on rumine les choses et on attend l'occasion particulière dans laquelle on pourra faire du tort à l'autre. Et c'est ce qu'a fait Absalom, si vous avez lu l'histoire d'Absalom, qui est le fils de David. Absalom, eh bien, vous savez, a eu une sœur qui s'appelait Tamar, et puis leur demi-frère s'appelait Amnon. David a eu plusieurs femmes, donc il a eu des enfants différents. Et donc, dans cette relation, Amnon, n'est-ce pas, a déshonoré Tamar et a couché avec elle. Et quand elle est revenue, bon, son frère Absalom lui a dit, on étouffe l'affaire. Ne fais pas de bruit, ma sœur. C'est ton frère. Mets-toi de côté. Mais en disant ça, il avait dans sa tête déjà comment il va se venger. Et il a attendu 2 ans. Il a attendu 2 ans. Quand il a eu une occasion, il a fait venir Amnon, il a supplié son père, il va faire une fête d'envoyer Amnon, il lui a donné à manger, il lui a fait boire, et puis il a dit à ses hommes, quand il sera égayé, ayez courage, frappez-le. 2 ans! Ça a mijoté dans son esprit. Vous voyez, ici, la vengeance, on dit, c'est un plat qui se mange froid. Il y a des gens qui sont capables d'attendre très, très longtemps. Et parfois, nous pouvons faire cela aussi les uns avec les autres. Peut-être à notre échelle, on garde dans notre esprit une parole qu'on nous a dite depuis longtemps. Et puis on dit, je me souviens, il y a 10 ans, tu m'as dit ça. Et maintenant, voilà comment, tu vois. Et on peut agir comme ça, en cherchant à se venger. Il y a une certaine jouissance à attendre l'occasion de pouvoir se venger. J'habite dit, je ne porterai pas la main sur toi. Je me confie en Dieu. Dieu me vengera. Dieu me délivrera de ta main. C'est lui qui fera tout. Et l'Écriture nous encourage à ne point nous venger nous-mêmes. Romains chapitre 12 dit, ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez le bien devant tous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimé. Et puis encore au verset 19, il dit, ne vous vengez point vous-même, 2 fois, dans le même chapitre, Romains 12. Mais bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, pas la vôtre, laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et ça, c'est une citation du Deutéronome. Donc Paul dit, l'Écriture dit, De la part de Dieu, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça, c'est Dieu. La vengeance et la rétribution sont à qui? À Dieu. Il dit, à moi. C'est une prérogative exclusive de Dieu. Et l'homme n'a absolument pas le droit d'exercer sa propre justice et de se venger lui-même. Et alors, peut-être certains peuvent dire, ouais, mais je lis dans la Bible, œil pour œil et dent pour dent. Si quelqu'un te crève un œil, tu lui crèves un œil. Non, c'est pas ça que ça dit. D'accord? Ce n'est pas, c'est plus une loi pour, déjà premièrement, pour restreindre. C'est-à-dire que, et c'est une loi qui est adressée à ceux qui doivent exercer la justice. Pas à un individu, hein, mais aux magistrats qui doivent exercer la justice. Il dit, si quelqu'un perd un œil, on ne doit pas aller plus loin que s'il faut réprimander qu'un œil. C'est ce que ça veut dire. Il faut qu'il y ait proportionnalité entre la faute et le châtiment. Ça, c'est uniquement ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que si on a subi, s'il y a eu une faute, on doit absolument avoir le châtiment non plus. C'est pas ça que ça veut dire. Okay, mais s'il y a, il doit être restreint à proportionnalité de la faute. Et donc, l'Écriture souligne clairement que nous n'avons pas le droit de nous venger personnellement, mais qu'on doit se remettre à Dieu. Et il dit même qu'on ne doit pas penser à se venger. Proverbe 24, verset 29 dit, « Ne dis pas dans ton cœur, je lui ferai comme il m'a fait. Je le rendrai à chacun selon ses œuvres. » Ne dis pas cela, dit-il. Ne dis pas cela. Et donc, nous nous sommes appelés à laisser Dieu agir, à lui faire confiance. Et ce que David, on l'a dit tout à l'heure, a fait dans le chapitre 26. Donc la vengeance appartient uniquement à Dieu et on doit agir comme Christ lui-même a agi. Rappelez-vous, l'apôtre Pierre dit que Jésus-Christ a souffert et qu'il nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Et lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Et qui c'est qui juge justement? C'est Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, il n'a pas cherché à se venger alors qu'il a été extrêmement maltraité pendant sa vie sur la terre. Il s'en est remis à Dieu qui juge justement. Juger est quelque chose qui est très difficile. Il faut être juste pour pouvoir juger. Seul Dieu juge justement. Et c'est pour ça qu'il faut se remettre à celui qui juge justement. Ok? Parce que faire périr quelqu'un qui a fait périr quelqu'un, pour nous, ça c'est la justice, mais quand, en fait, quand on réfléchit bien, c'est pas une justice qui nous satisfait, n'est-ce pas? Je pense, par exemple, les personnes qui ont perdu un membre de leur famille à cause d'un terroriste, par exemple. Et si le terroriste meurt, la personne n'a pas l'impression que justice a été rendue, hein. Parce que la perte, d'accord, n'est pas compensé cœur dans le cœur. Donc il faut que ce soit Dieu lui-même qui juge d'une manière selon sa propre justice pour que cette justice soit vraiment une véritable justice. Donc nous ne devons pas faire le mal que nous avons reçu. L'Écriture dit plutôt qu'il faut faire le bien au lieu de faire le mal. Et même, il dit de surmonter le mal par le bien. Romains chapitre 12, verset 21. Donc ça c'est ce que David fait ici. Vous voyez, il manifeste la grâce, on pourrait dire, en montrant du respect, en essayant d'établir la vérité, et puis en se remettant à Dieu, complètement, pour ce qui est du cas de Saül. Ainsi, chaque fois qu'il était dans la situation, on pourrait dire dans l'occasion, où il pouvait terminé avec Saül, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a fait grâce, il a fait le bien et il s'en est remis à Dieu. Il a attendu l'heure de Dieu. Alors, quelles leçons nous pouvons tirer de ça? Très rapidement, premièrement, on peut dire que on doit apprendre à être extrêmement vigilant dans la manière d'interpréter les situations, la providence de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que c'est Dieu qui a organisé la situation dans laquelle David se trouvait à côté de Saül les deux ou trois fois où c'est arrivé. D'accord? Toute situation est sous le contrôle de Dieu et le contrôle de sa providence. Donc Dieu a permis, il a permis que David se trouve dans cette situation à côté de Saül. La question c'est, pourquoi faire? Pourquoi faire? Saül est en train de dormir, sa lance à côté de lui, les deux armées, on pourrait dire, côte à côte. Pourquoi faire? Sinon que pour en terminer avec la situation. C'est ce que ces hommes ont dit. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, Dieu te livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Fais envers lui ce qui te semblera bon, c'est ce qu'il dit. Et lui, ce qui lui a semblé bon, ça n'a pas été de le tuer, ça a été de lui faire grâce. Les hommes, eux, ils ont fait, et les hommes de David pensaient qu'il fallait le faire, qu'il fallait le tuer. Donc vous voyez qu'il y a ici deux interprétations de la même situation, de la même opportunité, on pourrait dire, ici. D'un côté, pour les serviteurs de David, c'était une opportunité pour que Dieu donne une opportunité pour terminer avec Saül. C'est ainsi que Dieu avait décidé de terminer avec Saül. Et pour David, ce n'était pas du tout le cas. Donc il faut être extrêmement vigilant quand nous sommes dans des situations, dans l'interprétation que nous donnons à la situation, de l'occasion que nous croyons voir dans la situation. Parfois on dit, j'ai vu la main de Dieu qui fait... Ou alors Dieu a ouvert une porte plutôt. Hein. Dieu a ouvert une porte pour ceci. Et donc j'ai pris la décision de faire cela. Mais ça n'est pas suffisant. D'accord? La situation en elle-même n'est pas suffisante pour savoir ce qu'il faut faire. D'accord? Et la situation ne dit pas ce qu'il faut faire. C'est une situation dans laquelle on peut faire ou le bien ou le mal. Et David pouvait faire ou le bien ou le mal. S'il avait tué Saül, il aurait fait le mal. S'il a préservé, il a fait le bien. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas chercher ce qu'on va voir ici. Il ne faut pas chercher à interpréter de n'importe quelle manière les situations. Qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce que David a fait qu'il n'a pas tué Saül? C'est qu'il a considéré la parole de Dieu et les commandements de Dieu. Il dit, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel, parce qu'on ne porte pas impunément la main sur loin de l'Éternel. Si on ne porte pas impunément, c'est que c'est un péché de porter la main sur loin de l'Éternel. Exode 22, je vous ai dit, il dit, tu ne parleras pas en mal du chef de ton peuple. David sait ces choses. D'accord? Et donc il dit, je ne le ferai pas, parce que ce serait désobéir à Dieu. Autrement dit, dans l'opportunité, il faut considérer la parole de Dieu, le commandement de Dieu. L'opportunité à elle seule n'est pas un guide pour nous dire ce qu'il faut faire. L'opportunité, l'occasion présente, la porte ouverte n'est pas la parole de Dieu. On dit, Dieu a ouvert une porte, alors je suis entré. Non, Dieu a ouvert une porte, oui. Faut-il entrer? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce qu'en y entrant, je désobéis à Dieu? Si oui, il ne faut pas entrer. Dieu met une situation pour peut-être tester mon obéissance. C'est important de considérer cela. Voilà l'occasion de tuer Saül. Est-ce que c'est Dieu qui l'a pourvu cette situation? Oui, parfaitement, c'est lui qui l'a fait. Les gens de Saül le disent, les gens de David le disent, pardon. David lui-même le dit, Dieu m'a livré entre tes mains, et Saül lui-même le dit. D'accord? Dieu m'a livré entre tes mains. Ok? Trois personnes disent, c'est la volonté de Dieu que la situation soit comme ça. C'est lui qui l'a prévu. Est-ce fallait-il pour autant que David tue Saül? Non, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il le fasse. La volonté de Dieu était qu'il obéisse à la parole de Dieu. Le seul guide sûr, c'est toujours la parole de Dieu. Jamais la situation. Jamais l'opportunité. Jamais l'occasion. Et c'est ce que nous disons dans notre catéchisme, question 3, nous disons, qu'est-ce que les Saintes Écritures? Les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, constituent la parole de Dieu ainsi que l'unique règle en matière de foi et d'obéissance. L'unique règle, l'unique, la seule chose qui nous donne un guide, c'est la parole de Dieu. Est-ce que j'obéis, oui ou non, à la parole de Dieu? C'est pas la porte ouverte, c'est pas la porte fermée. C'est la parole de Dieu. Et donc, l'occasion est toujours une occasion qu'il faut regarder avec des pincettes et ne pas, d'accord, plonger là-dedans les deux pieds. Il y a des gens qui disent, mais si Dieu ne voulait pas que j'épouse cette fille, pourquoi il a permis que je la rencontre? Pour voir comment tu obéis à sa parole. Peut-être. Dieu a dit, J'ai fait passer le peuple d'Israël par le désert afin de voir quelles étaient les dispositions de son cœur. Donc il nous appartient de chercher toujours à obéir à la parole de Dieu. Et puis, je dirais que dans une situation, dans une situation parfois difficile, la victoire la plus importante, ce n'est pas la victoire sur l'ennemi, mais c'est la victoire sur nous-mêmes. David, dans cette situation, avait besoin d'apprendre à surmonter peut-être ce que la situation lui donnait envie de faire. Hein? Ce que la situation a donné à ses serviteurs envie de faire. D'accord? Il fallait qu'il surmonte cela et qu'il apprenne la patience. Non, je vais attendre que Dieu le fasse, comme il dit au chapitre 26. C'est à Dieu de le faire. C'est lui qui le fera en temps voulu. Donc, quelque part, vous voyez, la victoire qu'il avait remportée, c'était sur lui-même et la tentation d'agir de manière naturelle. Les occasions dans lesquelles Dieu nous place sont des occasions dans lesquelles nous avons à apprendre à surmonter nos penchants naturels en obéissant à Dieu. Ne pas se laisser vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Et donc, les opportunités sont toujours des tests pour notre foi. Les occasions sont toujours des tests pour notre foi. Vais-je, oui ou non, me soumettre, croire aux paroles de Dieu? Dieu avait dit à David, tu seras roi, je t'ai choisi. Il a été roi par Samuel. Et voilà un homme qui le poursuit pour le faire périr. Vais-je périr? Non, il ne va pas périr. Il va être sur le trône. Mais à quel moment? Quand? Mais quand Dieu l'aura voulu. D'accord? Abraham a eu une opportunité avec Agar, n'est-ce pas? Et puis il a eu un enfant parce que voilà, la promesse tardait à venir et on sait quelles conséquences ça a eu. Mais Dieu a tenu quand même sa promesse. Et les opportunités, les occasions, les choses comme cela sont des fois des tests que Dieu met devant nous pour exercer notre patience. Et pour produire en nous, je pense, le fruit de l'esprit. On a vu la patience, la tempérance, la foi et toutes ces choses. Et puis je termine en disant que ici, l'exemple de David nous pointe vers un exemple plus grand encore. C'est l'exemple du fils de David, Jésus-Christ, qui est le roi par excellence et qui est celui qui fait grâce, parfaitement grâce. Ici. On voit que David fait grâce, mais sa vie est faite, on va voir, de haut et de bas. Aujourd'hui, il est là, demain, il est dans d'autres situations où il agit d'une manière complètement différente et pas du tout spirituelle. Mais nous avons en Jésus-Christ, celui qui nous fait parfaitement grâce. David n'a pas toujours fait grâce. On peut le voir dans d'autres histoires où il a agi, où il a tué sans faire grâce aussi. Mais Dieu est celui qui fait grâce. Et il ne nous punit pas selon nos péchés. Et cette histoire nous pointe vers celle de Christ, qui est le roi par excellence, le sauveur, qui a, on l'a dit tout à l'heure, a subi à notre place notre peine, pour que nous puissions être épargnés. Il ne nous a pas punis, il nous a épargnés, alors que nous méritions. Est-ce que Saül méritait d'être frappé à l'instant même? Oui, il le méritait. Oui, il le méritait. Mais dans sa grâce, David ne l'a pas fait. Est-ce que nous méritions d'être frappés? Oui, mais Dieu ne l'a pas fait. Si nous avions été, quelqu'un a dit, si nous avons été jugés comme nous le méritons, le monde entier serait un enfer aujourd'hui. Mais Dieu ne l'a pas fait dans sa grâce. Il a puni son fils à notre place, afin que quiconque place sa confiance en lui puisse avoir la vie éternelle. Et donc cette histoire nous appelle à nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, à réclamer de lui la grâce de son salut, à nous placer vraiment sous le sang de Christ qui a été versé pour les hommes à la croix du calvaire. Que le Seigneur nous aide à considérer cette grâce de Dieu envers nous et à agir aussi envers les autres avec grâce. Il nous est dit, de même que vous avez été pardonnés, pardonnez-vous aussi réciproquement. Donc que Dieu nous aide à considérer l'exemple de Jésus-Christ, le roi parfait, et à agir à l'égard des autres, comme au moins comme David l'a fait, avec grâce, avec respect, en cherchant à établir la vérité et en nous remettant complètement à Jésus-Christ, à notre Dieu pour toutes choses. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole qui nous guide et nous montre comment nous devons vivre. Sauve-nous de la tentation d'interpréter ta parole à partir de nos situations particulières, à partir des opportunités ou des occasions que nous avons, mais plutôt d'interpréter les occasions à partir de ta parole. Que ce soit ta parole qui soit le standard, le socle, le guide que nous utilisons pour savoir si oui ou non nous devons accomplir une chose ou pas. Donne-nous l'attitude qu'a eu David dans cette situation. Ne rien faire qui soit contraire à ta volonté. Et Seigneur, donne-nous de considérer comment nous avons été rachetés par ta grâce et d'user aussi de grâce et de bienveillance envers nos frères et sœurs, envers ceux que tu places auprès de nous, où qu'ils soient. Et que nous soyons ainsi un bon témoin de la grâce que tu veux offrir à chaque homme. Merci encore pour ta parole qui est la vérité. Amen.